En ces jours-là, sur le Sinaï, Dieu prononça toutes les paroles que voici. Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu en face de moi. Tu ne feras aucune idole, aucune image de ce qui est là-haut, dans les cieux, ou en bas sur la terre, ou dans les eaux par-dessous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux pour leur rendre un culte, car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Chez ceux qui me haïssent, je punis la faute des pères sur les fils jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Mais ceux qui m'aiment et observent mes commandements, je leur montre ma fidélité jusqu'à la millième génération. Tu n'invoqueras pas en vain le nom du Seigneur, ton Dieu, car le Seigneur ne laissera pas impuni celui qui invoque en vain son nom. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos. Sabbat, en l'honneur du Seigneur ton Dieu, tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, ni l'immigré qui est dans ta ville. Car en 6 jours, le Seigneur a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. Mais il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi le Seigneur a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin d'avoir longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, rien de ce qui lui appartient. Parole du Seigneur.
Nous rendons grâce à Dieu.
Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle.
Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle.
La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples.
Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle.
Les préceptes du Seigneur sont droits, ils se réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard.
Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle.
La crainte qu'il inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont dures et vraiment équitables.
Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle.
Plus désirable que l'or, qu'une masse d'or fin, plus savoureuse que le miel qui coule des rayons.
Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Alléluia, 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 alléluia. Heureux ceux qui ont entendu la parole dans un cœur bon et généreux, et qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance.
Alléluia, 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 Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous.
Et avec ton
Évangile de Jésus-Christ, notre Seigneur, selon saint Matthieu.
Gloire à toi, Seigneur.
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, écoutez ce que veut dire la parabole du semeur. Quand quelqu'un entend la parole du royaume sans la comprendre, le mauvais survient et s'empare de ce qui est semé dans son cœur. Celui-là, c'est le terrain ensemencé au bord du chemin. Celui qui a reçu la semence sur un sol pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec soi. Mais il n'a pas de racine en lui. Il est l'homme d'un moment, quand vient la détresse, la persécution, à cause de la parole, il trébuche aussitôt. Et celui qui a reçu la semence dans les ronces, c'est celui qui entend la parole, mais le souci du monde et la séduction de la richesse étouffe la parole qui ne donne pas de fruit. Et celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit à raison de 100, ou 60, ou 30 pour un. Acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur.
Ton évangile, Seigneur, s'inscrive dans nos âmes. Qu'il nous lave de toutes nos fautes au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, qui répande sa rosée. Comme le Verbe se lève sur toute la surface de la terre. En toute chair, elle se transforme en bénédiction qu'il puisse voir ceux qui sont la bonne terre s'ouvrir devant leurs yeux les portes de la chair et salaire en clair. Dès ici-bas, libre de toute entrave et libre de toute faute, au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit.
Amen, louange à toi, Alléluia, 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 louange à toi.
Ça fait boiter, c'est lourd à porter. Pour voler, c'est plus facile pour une colombe que pour un albatros. Albatros, quand il atterrit, c'est fatigant, ça use le ventre.
se fatiguant de s'envoler quand on est un phoque. Complètement usé. Alors on ne peut pas arriver jusqu'au bout. Est-ce que l'Église va arriver à aller jusqu'au bout? Alors vous asseoir. Vous asseoir un peu. Disant que je n'étais pas complètement mort, c'est un miracle. Disant que la théologie était toujours vivant. T'as pas de torticolis. Ah, moi j'ai été bien formé. Hein. Ah, ça oui. Ah, formidable. Ah. Ah, mais alors, qu'est-ce que j'ai été bien formé. 6 ans. C'est parce que j'ai pensé qu'il fallait que je comprenne la parole de Dieu. C'est marrant parce que si tu n'es pas dans le chemin, c'est sur le bord. C'est pas dans le chemin, c'est sur le bord. Chouette la parole Paul, du sommeur. Je me rappelle, c'était je crois que c'était une de nos toutes premières messes que je célébrais quand j'étais prête. C'est cet évangile-là. Je dis, oh là là. Je crois que c'est la première fois que j'ai fait un sermon, je crois. Comme prêtre, je crois la première fois, c'était à Clermont. Je me rappelle. Oui, parce que le père Emmanuel m'avait dit, Madrigon, tu dois faire une première messe à Montmorin. Oui, bon, pas de serment. Ah, tu sais, oui. Bon, tu dois faire une deuxième messe demain au prieuré, là, oui. Donc, il dit, bon, bah oui, pas de serment. Ah, et après-demain, tu dois faire aussi une première messe. Ah, oui, tu dois dire où déjà Ah oui, pas de serment. Tu la fermes. Alors, mes 3 premières messes, j'ai pas de serment. Pas fait de serment. Et la 4e messe, c'était arrivant. Alors, c'était l'évangile du semeur. Oh, oh, oh. Qu'est-ce que c'est fatigant. C'est fatigant. Mais je suis resté avec le père Emmanuel pendant 2 ans et je suis pas mort. Je suis pas mort.
Ça se voit.
Ça, c'est un miracle.
Vous êtes resté
2 ans. 12 ans.
Ah, 12 ans.
Et je suis pas mort. C'est vrai, je suis pas mort. Et donc, il y avait Esther et réagi. Et c'était bon, pas beaucoup, il y avait peut-être 14 petites grises qui étaient là, 14 petites grises. Oh mon Dieu! Et je disais, mais voilà, je me rappelle la première phrase du serment. Alors je disais, la première phrase de mon premier serment, le 18 septembre. 1986.
18 et 6 plus 6 plus 6. Donc, c'est 18 septembre. Je me rappelle toujours, c'est pour ça que ça m'est sorti comme ça. Un semeur est sorti pour semer. Alors, j'ai regardé les petites guitares. J'aurais dit, je préfère le verbe est devenu sœur. C'est vrai, le semeur. Le verbe est rentré dans la bonne terre. Il est devenu cher. Et j'étais assez fier de moi. J'ai dit, c'est pas mal, je suis trouvé un bon truc. Et c'est mon premier serment, je préfère. C'est la même chose. J'ai dit, c'est exactement la même chose. C'est la même chose. Le verbe devenu cher. La bonne terre, c'est l'Immaculée Conception. Si c'est pas l'Immaculée Conception qui brûle, qui détermine, qui a transformé surnaturellement, corporellement, j'ai bien dit corporellement. Toutes les cellules de mon corps, toute la matière tachyonique de ma vie incarnée, la transverbération, la subsistance mystique dans le verbe, dans le cinquième sceau de l'Apocalypse, ne fonctionnera pas. Je m'excuse pour le mot fonctionner, n'est-ce pas? Pas tout. Fonctionnera pas. Oui, l'Immaculée Conception. C'est l'absolution. L'incarnation de Dieu, c'est Jésus. Dieu incarné, c'est Jésus. Le mouvement éternel d'amour qu'il y a à l'intérieur de Dieu avant la création du monde, incarné, c'est le Sacré-Cœur de Jésus. C'est l'incarnation de la charité incréée de Dieu. L'incarnation de la charité incréée de Dieu, c'est le Sacré-Cœur. L'incarnation de l'humilité substantielle et éternelle de Dieu, c'est le grand saint de l'ouverture des temps. Et l'incarnation de l'absolution en personne, c'est l'Immaculée Conception. Il y a, quand vous avez la confession, vous voyez, vous recevez l'absolution. C'est pour vous pardonner vos bêtises? Mais bien sûr que non. J'ai fait une bêtise. Alors, je voudrais bien que bon Dieu me pardonne parce que j'ai fait une bêtise, j'ai cassé le vase. Enfin, je vais me confesser. Hein. J'ai cassé le vase. Et bon, il n'a aucune valeur. Mais j'ai cassé. Bon. Est-ce que c'est ça l'absolution? Pas, non. Tout de même, j'ai fait une calomnie, j'ai vraiment sali cette personne. Alors, je vais me confesser parce que, faut me pardonner, c'est gros. C'est ça la solution? Ben, ça va pas, non? Non, on se moque pas de Dieu. La théologie, justement, apprend à ce qu'on ne se moque pas de Dieu. L'absolution en personne, c'est l'Immaculée Conception. Il n'y a qu'une seule absolution. Quand je reçois un sacrement, je reçois la présence réelle d'une personne. Quand je reçois l'Eucharistie, je reçois la présence réelle de l'incarnation de Dieu dans l'union hypostatique de la matière. C'est une personne que je reçois. Sûr, ça. Quand je reçois l'absolution, je reçois la présence réelle de l'Immaculée Conception. Et l'Immaculée Conception, quand elle apparaît dans ce monde, 9 mois avant la naissance, il n'y a aucune condamnation à elle, il n'y a aucun jugement. Elle est l'absolution, la disparition. survage jusqu'au bout de la signification substantielle de l'Église, c'est l'Immaculée Conception, l'art de l'Église, c'est l'Immaculée Conception, c'est l'ouverture de l'Aquilon, l'engloutissement dans le tartare de tous ceux qui condamnent l'accusateur de nos frères est jeté, il n'y a plus de condamnation. Épître aux Galates, que nous venons de lire dans l'office de Verbe, dans le Christ de Jésus, il n'y a plus que l'Immaculée Conception. Et voyez, je trouve ça beau, moi, ça. Un semeur est sorti pour semer. Le Verbe est enfoncé dans la bonne terre. Il est devenu chair. C'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Il y en a un qui le dit à la manière de saint Matthieu, l'autre qui le dit à la manière de saint Jean, mais c'est exactement la même chose. Et quand j'ai reçu et que je suis englouti dans l'Immaculée Conception, je me donne, comme elle s'est donnée, dans tout le péché du monde. Il n'y a plus de condamnation. C'est ça qui va se passer à l'ouverture du cinquième saut. Vous comprenez, sœur Hélène? Alléluia! C'est que vous commencez à comprendre les trucs-là. Hein? Normal. On est informé, on comprend plus vite. Je me moque pas. Mais on est fatigué, vous savez, de perdre du temps. Parce que c'est fatigant de perdre du temps. Mais c'est pas grave, parce qu'on n'a jamais perdu de temps, parce que malgré tout, on a cherché la vérité. On l'a cherché la vérité. C'est vrai. Et on a toujours cherché. Vous regardez le parcours, vous verrez, on a toujours cherché. Et bon, la providence fait que, voilà, je vais attendre 40 ans. J'attends finalement beaucoup moins longtemps que Abraham. J'ai 90 ans, disons. J'ai quand même de la chance, hein. Mais j'ai attendu moins longtemps que lui. J'ai cherché. C'est vrai, j'ai cherché. Et presque à la limite, j'ai cherché avec générosité, si vous voulez, sans vous dire. Ce qui compte, c'est pas. Ma foi, j'ai reçu des grâces quand même. J'ai reçu des grâces pour chercher. Sur le parcours, j'ai reçu des grâces. J'ai reçu. Bon, ça s'est pas fait sans croix, sans difficulté, sans épreuve, sans mise à l'épreuve. Mais j'ai cherché. Et j'ai reçu des grâces. Et il y a des grâces pour ça. Et ce qui compte, c'est qu'on ne soit pas trop fatigué avant la fin. Parce que c'est fatigant quand même. J'ai cherché, j'ai pas trouvé. Et j'ai demandé à citer au garde. Mais c'est vrai que, bon, à un moment donné, le rideau s'ouvre, j'ai emporté, l'envol se prend, l'Immaculée Conception prend son envol dans l'Esprit Saint, à travers moi, ça y est, c'est Dieu qui est là, c'est Dieu que j'aime. Je peux m'asseoir le septième jour. Je me repose. Le septième jour, c'est Dieu qui fait le reste. Et il faut qu'on soit toujours au septième jour, finalement. Le septième jour, le grand sabbat, quoi, le sabbat. Et le grand sabbat. c'est le grand, grand sabbat. On commence à 18h. Et se termine à 3h du matin, le surlendemain. Il dure 36h, le grand sabbat. De la mise en topo jusqu'à l'instant de la résurrection, ça a duré 36h. 36h exactement. Le grand sabbat. Le repos de Dieu. Toute la Bible, hein, toute la parole de Dieu, elle est construite sur le sabbat. Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Du début jusqu'à la fin. Le sabbat. Le sabbat. Dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament. La cause finale du Verbe qui a pris cher, de l'incarnation. En personne, de l'absolution en personne, de la charité toute pure et éternelle, incarnée. C'est le grand sabbat, c'est ce moment de silence, où il y a en même temps l'Immaculée Conception, en même temps la lumière, née de la lumière, de la transverbération de l'esprit. Du Saint-Esprit. C'est extraordinaire, hein, la transverbération du Saint-Esprit. Et en même temps, l'absolution éternelle, dans tous les temps et dans tous les lieux. C'est les trois blancheurs, hein, Marie, l'hostie, et la lumière immaculée, infaillible du Saint-Père, cette transverbération du Saint-Esprit, qui fait toute la doctrine. Si je vis ces trois-là dans le silence, cette conjonction entre les trois, c'est beau, se conjoindre les trois comme un lys au milieu de mon âme, immergé, identifié au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Si c'est ça pendant une demi-heure chaque jour, ça y est, je suis inscrit dans la grâce. Je ne suis plus dans les grâces, mais je suis dans la grâce. Il y a des grâces. Mais la grâce dépasse tout. La grâce dépasse tout. J'aurais peut-être pu faire mieux que Saint-Vincent Ferrier, et qui a ressuscité plus de 1200 fois des morts. Ou Saint-Dominique qui en a ressuscité 60. Ou Saint-Patrick qui a ressuscité 30 fois des morts. Je pourrais faire mieux qu'eux. Mais le pauvre, le tout petit, mon enfant, qui est dans la persévérance finale de la grâce, fait des myriades et des myriades et des myriades. Deux fois plus grande l'œuvre de Dieu. Et cet enfant, c'est moi qui l'ai engendré. C'est moi qui l'ai donné la vie à cet enfant-là. Et ce que dit saint Thomas d'Aquin, tu peux avoir reçu toutes les grâces qui sont répandues depuis le début de la création jusqu'à la fin du monde. Tu mets ça dans la balance d'un côté. Et de l'autre côté de la balance, tu mets cette grâce-là de la persévérance finale. Elle a plus de poids que toutes les grâces donné par Dieu depuis le début de la création du monde jusqu'à la fin. La grâce de la persévérance. La persévérance finale. Si j'ai cherché toute ma vie, et puis j'ai la grâce de la persévérance finale. Merci Seigneur. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on dit, vous voyez, quand chaque fois qu'on dit un rosaire, je vous salue Marie. Maintenant, pour les grâces, et à l'heure de notre mort, pour la grâce. résoudra le problème de l'Antichrist. Il aura toutes les grâces. Il ressuscitera les morts. Il restaurera la paix, la réconciliation entre les gens, la délivrance de Satan, tout ce que vous voulez. Mais il n'aura pas la grâce de la persévérance finale. Qui pourra le reconnaître ? Tant que la terre ne s'entrouvrira pas pour l'engouffrer dans le tartare pour l'éternité. Qui peut le deviner? Nous avons la crainte de Dieu, vous savez. Vous savez, il faut avoir la crainte, pas avoir peur, c'est pas ça, mais avoir cette délicatesse. C'est la crainte, c'est cette... comment est-ce qu'on... c'est quand vous faites quand ça y est, vous êtes embrassé par la lumière de l'Esprit Saint dans sa spontanéité, ça vous embrasse partout, vous êtes dans l'interface de la nature humaine qui s'engloutit, il fait engloutir la nature humaine et retourne la félicité de Dieu dans le temps et dans l'éternité. Vous êtes là, c'est libre, il n'y a plus aucun voile, vous êtes là, mais vous faites, c'est tellement délicat, c'est tellement subtil, c'est tellement indicible, c'est tellement à peine, vous voyez. C'est que si vous mettez, je sais pas, une pensée à vous au milieu de tout ça, tout est foutu. Vous voyez, vous ne voulez pas mettre un seul petit mouvement qui abîmerait ça. Vous ne voulez pas même un milliardième de cheveux qui... vous ne voulez pas mettre quoi que ce soit qui vienne de vous, de votre parcours, de ce que vous voulez, là-dedans, parce que ça gâche tout. C'est ça. Vous avez peur d'y mettre votre patte. Vous avez peur, vous êtes terrorisé à l'idée d'y mettre votre truc à vous. C'est ça la crainte. Vous avez peur de vous, quoi. Vous avez peur de faire une gaffe, je ne sais pas comment dire. C'est pas faire une gaffe. Pas de faire une grosse gaffe, hein, pas de faire une gaffe la plus minuscule qui soit. Vous avez une délicatesse vis-à-vis de Dieu. Vous ne savez pas qu'il y a la moindre chose qui vienne de vous. Pas la moindre. La plus microscopique, la plus tachyonique. Pas la moindre. Parce que vous voyez des cathos comme ça qui arrivent pour donner des cours, hein, soi-disant, hein, de théologie. Avec leur grosse patogasse. C'est tellement gros que ça fait rigoler, quoi. Tellement gros. C'est énorme à ce point. Mais nous, c'est différent, vous voyez. Là, il y a une délicatesse. C'est ça l'oraison. L'oraison nous apprend cette délicatesse pour laisser la place à Dieu. Et on voit d'ailleurs que ce petit minuscule intervention qui vient de nous au milieu de tout ça cache tout. J'en fais l'expérience, hein, dans la prière, ça. Dans l'oraison, j'en fais l'expérience et je prends petit à petit, va naître à l'intérieur de moi ce désir de la persévérance finale. Et je vais demander à chaque oraison la persévérance finale. J'ai pourvu que j'arrive à cet état, Seigneur. De la persévérance finale où je ne mettrai rien de moi, où tout ce sera pour ton unique gloire. C'est cet instant final qui compte. Et oui, on a vu tellement de saints dans notre génération, quoi, mais tellement admirables. Mais moi j'ai vu ça. Je veux pas revenir en disant je, ça ne se dit pas de mettre je dans un prône, mais quand même, de mes yeux, je témoigne que j'ai vu. J'ai vu ces miracles. J'ai vu le Père Marito, enseignant, communiquant la vérité, la recherche de la vérité. Dans les amphithéâtres, des universités où il était le plus attaqué qui soit. Et il y avait c'est tous les étudiants de toutes les matières qui venaient écouter. Et son vêtement resplendissait, se transfigurait en blanc de lumière. Une transfiguration, vous voyez ce blanc qui rayonnait dans le soleil. Mais il n'a pas été jusqu'au bout. Il a reçu des grâces. Il a communiqué des grâces. Il a formé plus de 25 000 prêtres. Alors, il faut avoir la crainte de Dieu. J'ai vu, nous avons vu des grands fondateurs de communautés Noël éclairés par Dieu, visités par le ciel, indéniablement ressuscités des morts, multipliés, le pain eucharistique. Multiplier l'Eucharistique des dizaines de fois. Sous nos yeux, nous l'avons vu. Mais ils n'ont pas, etc. Mais ils n'ont pas été jusqu'au bout. Ils sont tombés dans le péché de chair avec la petite jeune fille qui s'avait convertie. Vous savez, quand Jeanne d'Arc a mis le dauphin désigné par le ciel sur le trône de France, on ira faire le pèlerinage après-demain, à Saint-Benoît. Et Charles VII, c'est ça. Une fois que Jeanne a brûlé, et que son cœur continue à battre, que le sang continue, que l'amour divin, transsubstantié, transactué, continue encore aujourd'hui. Elle est là, dans son corps spirituel, encore vivant. Charles VII s'est intéressé à une autre mystique, pour avoir continué quand même les voies du ciel. Comment elle s'appelle d'ailleurs? Agnès Sorel, c'est ça? Et il a couché avec elle. Cette mystique Agnès Sorel, qui était une très grande, c'était une belle, magnifique sainte. Elle avait les grâces. Et le roi, il n'avait pas eu les grâces. Mais à la fin, ils n'ont pas percé. Ce qui compte, c'est la persévérance. Le syndrome de la valise, c'est le contraire. C'est une tentation contre la persévérance. Oui, c'est pareil. Et donc, quand le syndrome de la valise nous atteint, mais on rigole. On connaît le truc. C'est la persévérance. Ce qui compte pour nous, c'est Dieu. La persévérance finale. Et quand on a vu, vous voyez, nous avons vu de nos yeux tout ça. Nous pourrions dire tellement de choses. On ne peut plus. Ah oui, ah, cette personne-là, celui-ci, ah là, je suis sûr de lui. Si quelqu'un, je vous dis, si quelqu'un, c'est le Père Nathan, je suis sûr de lui. Donnez-lui de ma part un grand coup de poing dans la gueule. Il se trompe totalement. Comment peux-tu le savoir? En voilà une erreur. tant que tu n'as pas été au bout des 36 heures de son samedi saint, de son grand sabbat, tu ne peux rien savoir. Je ne sais rien moi-même. Nous ne savons rien nous-mêmes. De nous-mêmes, nous ne savons qu'une seule chose, c'est que si nous avons le désir du grand sabbat, si nous avons le désir de dire oui jusqu'au bout, si nous le demandons, peut-être que le Seigneur nous donnera la grâce. Si nous avons l'amour, et c'est ça, hein? Et quand l'Église doit aller jusqu'au bout, du chemin jusqu'au saint, comme ça, de l'ouverture des temps, elle le fera avec ceux qui ont reçu la grâce de la persévérance, parce qu'il y a de l'amour en eux, de la lumière et de la vie, et ils sont éternellement libres, et ils ont un désir, comment dirais-je, comment est-ce qu'on pourrait dire ça, une espérance, c'est un désir. C'est l'incarnation du désir. La personne sponsale de l'époux dans l'éternité agréée de Dieu. La personne sponsale de l'épouse dans l'agrée éternelle de Dieu. Ce désir mutuellement. S'attire réciproquement de l'un à l'autre en péricorèse. Cette péricorèse sponsale fait le désir. Et l'incarnation du désir, c'est la grâce de persévérance finale. Lorsque ce désir-là est incarné en personne, qui peut affirmer? Est assuré d'avoir cette grâce-là, avant que ne la lui soit donnée, qui peut? Hein? Le cri de Saint-Michel Archange, qui? Hein? Comme Dieu. Parce qu'une fois que je suis mort, je peux vous dire, plus personne ne dit rien. Hein? L'Immaculé, Yohanan, Magdalena, Dismas, Saint-Joseph. Il se fait un silence d'environ 36 heures. Pas mal ça, chaque jour 36 minutes, une minute par heure. Le grand sabbat, c'est ce qui compte, voyez, dans notre vie. Si on cherche Dieu, on le trouvera dans l'oraison. Dans l'oraison de la persévérance finale. Parce qu'il faut que dans l'oraison, nous soyons en présence de la persévérance finale. C'est-à-dire de l'incarnation personnelle en personne. De ce désir sponsal agréé en Dieu. Nous désirons cette grâce. Et on peut dire la personne qui incarne ce désir agréé, eh bien c'est l'Église. C'est pour ça que pour nous, l'Église, c'est tout. Et on ne juge pas l'Église. Jamais. Pour ceux qui sont dans le Christ Jésus, notre Seigneur, La condamnation a disparu, elle n'existe plus. Il n'y a plus aucun jugement. Donc, ça ne veut pas dire qu'on est aveugle, attention. Mais il y a tellement d'amour dans l'aspiration agréée de Dieu que nous en sommes l'incarnation tachyonique. J'ai fait des progrès hein, depuis mon premier serment. Hein. Oh! C'est vrai? Ah, j'ai le droit. J'ai quand même le droit, non? Quand même le droit d'avoir un peu de fierté. Ma gloire, c'est en Dieu. Hein, bah. On peut se glorifier, il vaut mieux se glorifier en Dieu quand même. Se glorifier dans ça, dans des trucs, dans des grâces. Ah ouais. C'est pas mal, hein. Allez. Ok, on va faire la 7e année de théologie. C'est l'année du 7e jour.
Il fallait la chute. Il n'y a rien à faire.
C'est l'année. C'est l'année du 7e jour. C'est le 7e jour, le 7e jour du grand sabbat. L'année de la grâce. Théologie de la grâce. Celle qui fait que nous sommes l'incarnation même du désir. L'Église, c'est nous. Dans le 5e saut. Et de se préparer à ça est une chose si simple, si facile, lorsque nous nous y coulons délicieusement en cette grâce-là du 5e saut. Cette spiritualité de la grande sainte, de la grande sainteté royale au milieu des multitudes est une chose tellement simple que nous allons nous y accoler. Nous allons apprendre. Nous allons nous laisser aspirer. Et à cause du cœur spirituel, à cause du cœur spirituel, c'est à cause du cœur spirituel que nous allons nous envoler et nous nourrir, nous accoler délicieusement dans cet amour-là qui est dans le cœur de quelqu'un d'autre que nous. Parce que c'est pas dans notre cœur n'est pas persévérant. Notre cœur a reçu des grâces, mais notre cœur est un cœur qui ne marche pas, qui ne vole pas. Oui, il peut voler s'il aime. Et si tu aimes, tu es capable de t'envoler et de t'écouler dans l'amour qui fait vivre le cœur de l'autre que toi, de quelqu'un d'autre. Son amour est tellement immensément plus grand que celui qu'il y a dans le tien, que du coup, pour la première fois, tu vas faire un acte d'amour avec ton cœur humain. Et tu vas avoir une qualité du cœur. La persévérance, c'est une des 88 vertus. Si tu vois, si tu es capable de faire un acte d'amour avec ton cœur humain, au moins une fois dans ta vie, vous savez, dans une vie. Dans une vie. Combien sur 90 ans, hein, combien un être humain fait-il un acte d'amour humain avec son cœur spirituel? Donnez un chiffre. 3 à 4 fois, pas plus. C'est pour vous dire que notre cœur spirituel humain, celui qui était mis à jour par Aristote, le vieux païen, ne s'actue pas beaucoup, hein. Mais dans l'oraison, notre cœur humain vient à la surface. Il saisit, il s'envole dans un amour qui appartient au cœur de quelqu'un d'autre que nous. Il se nourrit de cet amour. Alors Dieu peut passer dans la cinquième demeure. La cinquième demeure, le cinquième son d'Apocalypse, c'est l'église de la mort. C'est l'église de la mort. Voilà la lecture du livre de l'Apocalypse. C'est ça, la lecture du livre de l'Apocalypse. C'est comme ça qu'il faut lire et expliquer l'Apocalypse spirituellement. Avec le cœur spirituel. Mais vous me direz, bon, parce que si vous regardez bien votre vie, quelquefois on fait ça dans certaines retraites de Saint-Ignace, on fait une anamnèse de toute notre vie comme ça. On fait une confession générale, hein, le sixième jour des exercices. Quand on fait les 33 jours, bien sûr. Le sixième jour des exercices. Et c'est là qu'on voit que c'est 2-3 maximum actes d'amour humain. Je ne parle pas d'amour de charité surnaturelle, je parle d'amour humain, tout simplement. Est-ce que je suis le seul à avoir raté ma vie? Un échec affectif effroyable. Mais non, je ne suis pas tout seul. Mais non, je ne suis pas une exception.
Comme disait le père Emmanuel, je suis bien pire que toi. Mais bien pire que toi, enfin.
Est-ce que c'est exceptionnel? Et c'est ça qui est beau quand on voit l'Immaculée Conception, quand on voit Saint-Joseph qui est en affinité avec elle. Ces actes d'amour humain, si sublime, si immaculé, si accompli, si parfait. Continuellement, à chaque instant, à chaque moment, et aujourd'hui éternellement. On a ce désir de mettre notre cœur dans cette vertu, cette qualité qui est la leur, d'aimer avec le cœur humain, pour pouvoir brûler de l'incarnation de la charité agréée de Dieu dans le règne du Sacré-Cœur. Et une fois qu'on a aperçu ce chemin, on s'y coule, on y va, on descend dans la mer rouge à pied sec, et là, on passe, voyez, sur l'autre rive. On essaie d'attendre que de voir comment on s'envole dans le cœur de quelqu'un d'autre pour que notre cœur humain puisse se réveiller, qu'on puisse avoir un amour d'amitié. Avoir de la bienveillance pour soi-même. De la bienveillance pour celui qui est proche de nous. Comment voir ce chemin qui se fait? Il y a une purification du cœur quand on cherche Dieu. Il y a une purification du cœur humain spirituel. Et il y a des actes qui permettent au cœur humain de venir à la surface et de prendre sa place dans l'amour qui est si sublimement, si intensément, si immensément plus grand dans le cœur de l'autre que moi. Même si c'est mon ennemi. L'amour qui est dans son cœur est forcément plus grand que le mien, puisque c'est l'autre et que Dieu l'a mis proche de moi. Et donc si Madame dit « aime ton ennemi », ça veut dire que l'amour qu'il y a dans son cœur est beaucoup plus grand que le tien, sinon il ne te le demanderait pas. Il faut avoir confiance. Confiance, c'est aussi une qualité du cœur humain pour aimer. Il faut avoir de l'humilité. C'est aussi une qualité. cœur très très pur. La virginité du cœur, très important comme qualité du cœur, pour pouvoir voir dans son ennemi que son amour est évidemment beaucoup plus grand que celui de quelqu'un dans le mien. Alors je fais, dans le cas de mon ami, je me plonge dans ce qu'il y a de plus grand d'amour. Et je vais me nourrir de l'amour qui est dans son cœur pour remercier le Seigneur et pour l'aimer. Et je vais me rendre compte que je ne le condamne plus. Un seul acte d'amour vis-à-vis de mon ennemi. Il n'y a plus aucune condamnation vis-à-vis de mon ennemi. Ah, il m'a fait du mal. C'est exactement le contraire de Freud. Exactement le contraire de Jung. Exactement le contraire de Reich et de Lacan. Exactement le contraire. L'Église de Thyatire, tu as admis chez toi la fausse prophétesse. Des profondeurs, comme ils disent. La psychologie profondeur, la philosophie analytique, la quatrième tête du dragon, cette tête anticorne. Hein. Elle est terrible, celle-là. Et on est quand même d'une génération très, 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 très marquée par le monde. Alors le cœur spirituel, c'est-à-dire humain, terminé. Chloroformé. Alors, on apprend grâce à ces qualités. On apprend, c'est un chemin, c'est des actes. Et on va faire des actes d'amour. Les actes d'amour les plus faciles à faire pour acquérir les vertus, pour repérer très clairement le chemin, c'est avec ceux qui nous ont fait le plus de mal, nos ennemis les plus féroces. Fais donc un acte d'amour avec le chemin qui t'est indiqué, était indiqué là. Voilà. Avec le vol de la colombe, le fils de ton cœur découvre l'amour beaucoup plus grand, sans comparaison que celui qui est dans ton cœur, et nourris-toi de l'amour qui est dans le sien. Et embrasse-le, regarde-le face à face, et regarde si c'est encore ton ennemi. Fais l'expérience. Fais l'expérience. Fais-le au moins une fois. C'est pas difficile. Oh non, moi je peux pas le pardonner. Ah non, pas question, il a violé mon fils. Il faut aimer son prochain. Celui que Dieu a mis proche de nous. C'est notre. Vous voyez ça? C'est la persévérance finale. Si la persévérance finale n'est pas un acte d'amour, dans un amour qui est caché dans le cœur de quelqu'un d'autre que nous, qui est beaucoup plus grand que nous, qui pourrait. Si c'est pas ça la persévérance finale, c'est quoi, je veux dire hein? S'il n'y a pas de pardon, dans la persévérance finale, c'est quoi? La persévérance finale, c'est pas ce don parfait de l'amour vis-à-vis de ceux qui à qui on demande pardon de ne pas les avoir aimés. C'est pas je te pardonne, hein. C'est je te demande pardon parce que j'ai pas fait un sac d'amour vis-à-vis de toi. Je te demande pardon jusqu'à la racine de tout. Et je m'abreuve du amour que tu as mis au fond de toi. Il est plus grand que le mien pour le coup, ça c'est sûr. Parce que moi j'étais catholique. Et toi, t'as pas reçu les grâces que j'ai reçues. Et pourtant, c'est pour ça que ton amour est beaucoup plus grand que le mien. Je suis. C'est injustifiable. C'est objectivement vrai. C'est pas. Comment dire une. Comment est-ce qu'on pourrait dire ça une autosuggestion, vous comprenez hein? Si je fais ça par autosuggestion. Ah non, ça c'est psy, ça. C'est médium, tu vois. Médium, je fais un voyage channeling, tu vois. Enfin, voyage astral, hop, je me donne tout le monde de lit. Non, pas par channeling, non. C'est un acte incarné, concret. La signification sponsale du cœur, c'est la virilité du corps. C'est une des 88 vertus, la virilité. La viriditas. Ça montre qu'on est humain. Mon cœur dit que je suis un homme, par l'amour, par cet acte d'amour. C'est la force de l'homme de pouvoir aimer. D'un acte d'amour véritable. Hein, c'est ça. La victoire du cœur immaculé de Marie, en troisième secret, la victoire du cœur immaculé de Marie, la victoire du cœur immaculé de Marie, le cœur du cœur, c'est un cœur humain, le cœur immaculé de Marie. C'est sa victoire, elle atteint en chacun de nous un amour qui peut. Elle nous admire, Marie. Elle nous admire. Elle nous admire beaucoup. Et sans tricher, elle nous admire. La victoire du cœur immaculé de Marie, elle nous admire. Parce que nous ne sommes pas à l'Immaculée Conception avec cette plénitude d'amour dès le départ. Nous sommes un échec d'amour continuel. Et pourtant, nous avons ce désir. Dernier temps, la persévérance finale. Pour Marie, ça c'est admirable. C'est les deux choses que Marie admire. Marie admire la miséricorde incréée de l'unité de la très sainte Trinité. Et elle admire la grâce. Ceux qui sont broyés par l'incapacité d'aimer parce qu'ils sont pécheurs. Mais ils ont ce désir de la grâce. Et de ce point de vue-là, l'amour qui est en eux est beaucoup plus grand que celui qui est en elle. Elle nous aime. Elle vient s'engloutir dans notre cœur. Elle vient s'abreuver de cet amour. Voilà. Comment se réalise le mystère de compassion en elle? C'est du concret, ça. Ça, c'est du concret, ça. C'est pas des théories, là. C'est pas intellectuel. C'est intraduisible en anglais. Bon, c'est plus la peine de le dire, elle est partie. C'est beau, alors voyez, regardez comme c'est. Et puis c'est tellement facile, c'est ça que le Père Emmanuel va nous expliquer. Non, c'est tellement. Enfin, quand je me rappelle quand il expliquait ça, le Père Emmanuel. Il expliquait sa petite sœur à Montmorin. La petite sœur.
Venez, mais ma soeur.
Qu'est-ce que vous cherchez?
Et vos bougies pour les
revoir. Ah ben, c'est bon. Ne vous inquiétez pas, je m'en occupe, je serai. Je suis fils du lent. L'habitus, vous savez, l'habitus, c'est la vigilance, c'est une des 88 vertus, la vigilance. Vigilance clonage, par exemple. Enfin, si t'as pas la vertu, vigilance clonage, terminé. Vigilance pas la vertu.
Mais enfin, ma soeur, mais vous êtes une bécasse. Mais arrêtez de gémir quand même. Mais c'est tout simple. Écoutez, si vous êtes malade, hein, à gémir avec vos enfants, si vous êtes inquiété, angoissé, avec Jean, on vous amène avec la Jeep à l'hôpital des Cinglés, là-bas à la Ragne. Voilà, on vous donne les médicaments. Mais sinon, vous dites, mais Seigneur, oh, par exemple.
Alors, j'objecte sur la clé. Du coup, elle avait plus d'angoisse.
Mais enfin, Sœur Marie Thomas. Mais Sœur Marie Thomas, mais enfin. Vous, enfin voyons. Non. Oh, vous avez besoin de tendresse. Ah, voilà. Vous avez besoin de tendresse. Très bien. Très bien. Bon, eh bien, écoutez-moi. C'est pas moi qui vais me dévouer. Et puis c'est tout. Vous êtes une grosse bécasse, enfin, voyons.
Et du coup, elle avait plus envie. C'est tout simple, c'est des choses simples. Ces choses-là sont simples. Il n'y a pas besoin d'être un torsionnaire en psychologie, hyper bien branché, hyper bien formé, dans le surmoi, le machin, les trucs qui n'ont jamais existé. Le moi, le surmoi, le machin, la psychose, la névrose, tout ça, c'est des mots derrière lesquels il n'y a rien. N'existe pas. C'est totalement faux. C'est une fausseté absolue. Il n'y a rien de vrai. Rien. C'est pas compliqué. Strictement rien. Pour cadrer, l'étape 7, dans le stade 8 et 9 de la gabelle pneumatosurnaturelle, naturelle, vous allez voir. Il y a les conséquences négatives du sentiment de culpabilité, ça oui, ça existe, ça c'est clair. Et les conséquences négatives de la conscience de culpabilité, ça oui, 14 éclatements de ce que j'encaisse parce que je préfère rester en disant oui, ma vie n'est pas vraiment très chouette, c'est un échec, j'étais blessé, j'ai mal agi. J'ai produit la même chose, ta vie, ce matin, ta petite, patin, copain, bon. Tous ces trucs, cette espèce de, bon, les 14 éclatements, de là, oui, ça existe, bien sûr. Mais attendez, le niveau, bon, alors bien sûr, si tu prends ça sur un plan hyper périphérique, tu dis, ah, oh, psychose, oh, névrose. Mais la névrose, la psychose n'existe pas, ce qui existe. Ça, c'est les conséquences négatives. Il suffit que, avec mon cœur, je rejoigne les émanations positives. Il n'y a aucune faute qui ne corresponde à un bien beaucoup plus grand. Ça te prend ça. Et c'est ce que dit Jésus dans la parabole. Il dit voilà, et voilà, il se. C'est semé, mais le sol était un peu pureux, quoi. Alors, du coup, il n'a pas de racines. Pas de racines. Si tu vas jusqu'à la racine de là, tu vois tout de suite qu'il n'y a aucune névrose, il n'y a aucune psychose. Il y a simplement des conséquences, c'est tout. Il y a des conséquences de nos mauvais choix. C'est évident qu'il y a des conséquences de nos mauvais choix. Et que ces conséquences sont de nature différente. Ils sont très faciles, mais très faciles à repérer. Et c'est très facile de faire des actes contraires dans les vertus qui leur correspondent pour rentrer dans les dérives positives. du sentiment ou de la conscience. De culpabilité. Jésus ne veut pas du sentiment de culpabilité. Dieu n'en veut pas. Dans le Christ Jésus, il n'y a aucune condamnation. Pour ceux qui sont dans le Christ Jésus, c'est l'anéantissement total, total. Et par des voies simples, pas compliquées du tout, pas du tout tordues, hyper réalistes. Bon, bien sûr, il faut accepter de prendre 3 minutes pour faire l'exercice. Oh, ça se fatigue. 3 minutes, oh. Je préfère passer 20 ans en passant 2 heures psychanalyse à raconter toutes des histoires perso, 3 heures, hein, tous les 3 jours. En plus, c'est bon marché, hein, c'est seulement 100 balles, la séance. 100 euros la séance, c'est rien, c'est pas cher. Voilà. C'est fini. Je sens que certains étudiants en théologie expriment un doute. Il me semble percevoir un doute. Oh. C'est un objet d'expérience. Philosophiquement, ce que je vous dis est parfaitement exact. Parce que je vois très bien ce que vous dites là, dans votre tête, en gros, il n'y a pas de manière de faire. Manière, c'est plus tard, si c'était ça, ça se saurait. Hein, hein? Hein? Non, mais seulement voilà, faire un acte de vérité, chercher la vérité, faire un acte d'amour spirituel humain, et ben c'est fatigant pour celui qui est psychique. Celui qui est psychique, il a envie de rester dans son psychisme. Alors, c'est fatigant, hein, de sortir de son psychisme. Il faut traverser la mer rouge à pied sec, hein. Compliqué, très simple, un pas et puis un autre. Un troisième. À chaque fois des actes. Et ça y est, c'est parti. Tu ne mettais pas dans les pattes de Jésus. Ça oui, tu peux aussi faire ça par la foi. D'accord, ça aussi, ça, voilà, il y a encore d'autres. Il y a plusieurs degrés de guérison, de restauration du cœur spirituel, c'est vrai. Mais voilà, donc, oui, c'est ça, c'est très fatigant de sortir du psychisme. Pour ceux qui sont dans le psychisme. Parce que le psychisme, c'est génial. Vous avez vu comment vous avez été psychanalysé? Ça vous est arrivé? Dites-moi. Avouez. Moi, oui. Donc je sais ce que c'est. Alors, on s'allonge. Et on raconte. Il y a quelqu'un qui fait semblant d'écouter et puis qui ne m'écoute pas, hein. Il fait semblant d'écouter lui, il empoche ses 100 euros. Il m'écoute pas. Par la suite, de temps en temps, il dit. Il fait exprès d'ailleurs. À un moment, il se fait. C'est la méthode, c'est ça. La fois suivante, on repart sur le moment où il a fait. Et ça dure quoi, 4-5 ans, je crois, jusqu'à ce qu'il fait le même transfert, hein? Ça va. C'est reposant, hein? Quelqu'un qui t'écoute, ouais, t'es allongé. Tandis que faire un acte d'amour, hein? Concret. De tendresse incarnée de l'intérieur, de la signification responsable de ton corps féminin. Attention, ça c'est pas mal. Là, c'est bien, là. Ça, c'est pas mal. ton âme psychique. Tu... Mais pour ton corps spirituel, pour ton cœur spirituel, et pour ta liberté originelle dans l'un, ça demande une mobilisation de toutes tes forces. Et ça épuise toutes les forces qui se sont accumulées dans tes énergies psychiques et métapsychiques. Tout est mobilisé. Un acte humain. Alors c'est fatigant pour celui qui est psychique. 3 minutes. Oh non, c'est trop. Et je vous assure que c'est vrai. Que c'est quand même curieux de le constater sur le terrain là. Et pourtant, la chose est résolue immédiatement. Est-ce que monsieur le vieux père franciscain là-bas, au Canada, j'ai reçu dans mes retraites de 5 jours. Il reçoit les gens par groupe de 100, 120 par là. Il m'a expliqué sur 25 ans. Il y avait des gens de toutes sortes. Mais par exemple, j'ai reçu plus de 2000, il m'a donné le chiffre exact. Il avait calculé 2000, je ne me rappelle plus le chiffre exact, mais 2000 et quelques homosexuels. Sur les 2000, à la fin de la semaine, mais il y en avait à peu près 90% qui n'étaient plus homosexuels. Ils ne l'étaient plus. Ils n'étaient plus homosexuels.
Aussi rapidement.
Je vous dis.
Mais je crois.
Que c'est pas de la psychanalyse. Et c'est gratuit. Ah, ça, c'est embêtant. Ça, c'est sûrement pas vrai, puisque c'est pas payant.
Et l'autre part.
Et les 10%, alors, je dis.
Qui reste?
Ah, ben les 10%, c'est dit, non, non, moi, je veux rester homosexuel, hein, je veux pas.
Non.
Ah, ben je veux rester, oh, oh, oh. Eh oui, on reste libre. Mais c'est une maladie du cœur, et c'est une maladie de la virilité, c'est une maladie de la subjugation sponsale. Tellement simple. Il dit non, 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 moi je préfère rester là. Désolé, tac, je coince, syndrome de la valise.
Patrick.
Alors oui, je dis mais est-ce que. Bon, ben, 10%, il devait être quand même content de savoir qu'un jour il pourrait, s'il décidait. Ah bah oui, il était content, bien sûr. De savoir que si. Il le restait, c'est parce qu'il le choisissait, mais qu'il pourrait un jour choisir de ne plus l'être. Et c'est comme ça, je veux dire, c'est pas compliqué, je veux dire, c'est.
Mais c'est tout simple.
Et c'est pas. Je pense pas que je pense pas, c'était pas un menteur, hein. Moi, je crois pas qu'il me mentait, hein. Je pense pas, hein. Je sais pas, je suis peut-être naïf, hein. C'est possible, c'est possible, c'est peut-être que je suis un gros naïf. Mais je crois pas, moi, j'ai pas l'impression que c'est un menteur.
Je peux vous dire, pour vous apporter un petit élément, c'est dans le médical. À Cannes, il y avait un professeur d'andro, spécialiste des glandes. Oui, alors, il était marié. Et il est homosexuel. Et un jour, il était franc, il a dit, non, sur 100 homosexuels, il y a environ moins de 8 cas qui sont cliniquement homosexuels. Mais là aussi, par la médecine, on peut maintenant, c'était dans les années 70, hein, on peut les guérir. Il faut le vouloir.
Non, mais ça, mais
voilà. Il faut donner une précision.
Non, donc ça, j'aurais pas dû dériver sur l'homosexualité. C'est pour dire tout simplement que les choses sont plus simples qu'on ne le pense, hein, et que il faut simplement désirer le soir que le bon Dieu le lendemain matin nous donne la grâce. Et il nous donne un petit élément, nous fait entrevoir cette grâce hein, qui est la nôtre hein, dans la raison du mariage spirituel accompli en plénitude reçue. Hein. Voyez, hier soir, question pour un champion. Est-ce que vous vous êtes endormi en demandant avec un désir ardent, ainsi que cela vous a été suggéré, en vous endormant, la grâce pour le lendemain, d'être pénétré par une grâce substantielle, jamais reçue par vous, qui relève de la persévérance universelle, quasi ancrée de la cinquième demeure, dans l'ouverture du cinquième sort. Allez, on va faire un test. J'ai ici un petit laboratoire portatif. J'en ai cinq. Qui a fait cet acte de demande, de désir brûlant en s'endormant?
Pas moi, Yonza.
Pas vous?
Non, j'ai beaucoup prié, monsieur.
Oui, pas vous? Pas vous? Pas vous? Et
une demande, mais pas exactement celle-là.
Est-ce que c'est pas indiscret, bien sûr, de savoir la demande? Vous savez plus, donc pas vous non plus. Parce que quand on fait une demande comme ça, je vais dire, on s'en rappelle.
Par rapport au cinquième saut, j'ai plus les mots exacts.
Bon. Bon. Heureusement qu'il y a quand même une petite, une petite prémisse de quelque chose sur une personne sur cinq, hein? Sinon, s'il n'y avait pas eu cette petite prémisse, tu dirais, bon, ben, j'ai pissé dans un violon, quoi.
Il y a un sac de patates,
vous voyez.
Et en plus, j'étais tellement fatigué.
Ça y est, tous les prétextes sont bons. Tous les prétextes.
Je vous dis.
Non, déni, déplacement, cristallisation et après justification.
Non, oui,
c'est
oui, en arrière,
c'est les cinq dérives de la conscience de culpabilité.
Il y a 8 jours en arrière.
Oui. Vous avez vu la dérive là?
Non.
Vous avez vu la cinquième? Hein? C'est net, hein? Néni, mais... déplacement,
et même une cristallisation. Fois, on aurait pu le penser une seule petite fois.
Et puis là, maintenant, justification. Hein?
Voilà. Non, je ne dis pas, je dis que j'étais épuisé.
Ah bah oui.
Moi aussi, j'étais épuisé.
J'ai vu mon lit, je suis tombé dedans. Je reconnais. J'étais épuisé.
Moi, je n'ai pas fait parce que.
Il y a des moments où vous pensez à rien.
Moi, je me suis abandonnée. Je sais que ça va travailler sur moi. Donc, moi, après la messe, moi, je m'endors en disant l'Esprit Saint, bon, fais ce que tu as à faire en moi parce que moi, je sais que je suis incapable de faire certaines choses.
Oui.
Mais j'ai pas demandé.
Oui, c'est le désir, oui. Ce désir, c'est le soir, on s'endort, et puis il faut qu'on pose un acte de désir. Mais c'est pas long, hein, cet acte-là. C'est un acte qui ne peut durer qui peut très bien ne durer que 3 secondes et demie. Hein.
Hein?
Mais ce désir, mais il est prêt, très, très déterminé. Je sais exactement ce que je désire. Hein. C'est pas un vague, hein. Voilà. Si tu fais cet acte de désir le soir, voilà, ça fait partie, vous voyez, de ces voies d'accès, le chemin, hein, pour entrer à la bonne terre. Il y a un chemin, il ne faut pas être sur le bord du chemin, il faut être dans le chemin et dans l'endroit où la bonne terre donne la racine. C'est des conseils, on appelle ça les conseils évangéliques, hein, les conseils infaillibles de l'Église. C'est très simple, si tu fais ça, le lendemain, cette grâce-là, tu la reçois. Dans l'oraison, si tu fais oraison. Alors, donc c'est très simple. Non. C'est très simple. Mais c'est vrai que on dit bon, il faut avoir pour poser cet acte-là souvent. Oui, pour que ça devienne un habitus, c'est-à-dire une qualité du cœur hein, de désir. Le désir, c'est une des 88 vertus du cœur spirituel. Hein. Alors, mais il faut poser beaucoup d'actes, des milliers d'actes de désir pour commencer à avoir cette qualité du désir du cœur qui aime humainement. Hein, saint Thomas d'Aquin, ça c'est la théologie de la mort. Théologie morale, théologie. C'est comment en fait voilà. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est si tu t'endors avec un désir le plus fervent possible, on est d'accord. Ça dure 3 secondes à peine. Mais attention, attention. Sous le souffle de l'Esprit Saint, ben, sous le souffle de la vérité, hein, la virilité de ton cœur, tu sais ce que tu demandes. Voilà, désir. Hein, par exemple, je peux formuler comme ça. Hein, vous vous dites, je me rappelle plus ce que j'ai demandé. Mais je désirerais tellement que pendant une des 3 moments d'action de grâce où l'oraison s'opère, j'aimerais tellement, Seigneur, j'ai le désir, j'ai vraiment ce désir. Je désire, mais ardemment, entrevoir ce qui se passe dans le cœur de Saint-Jean lorsqu'il est emporté dans l'accomplissement eucharistique de la Jérusalem glorieuse de la fin, lorsqu'il est au pied de la croix. Je voudrais l'entrevoir, le percevoir, le ressentir, l'éprouver, le découvrir, le toucher, le contempler, l'assimiler et vivre de ça un petit peu, ne serait-ce qu'un peu. Hein? Je fais un acte de désir sur quelque chose de très déterminé. Parce qu'un chrétien qui n'est pas déterminé, c'est une loque. Et c'est, oui, catholique, manque de détermination, de vérité et de désir. Et c'est ça que Dieu nous attend. Il nous demande la grâce de persévérance finale, parce que c'est la grâce de persévérance qui compte. C'est pas les grâces. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous... Là, j'arrête parce que il faut quand même qu'on célèbre la messe. On en dit à chaque fois un petit peu, hein? Pas te dire d'un coup quoi. On dit quoi? Une goutte de lait pour les débutants, hein?
J'ai pensé à ça.
Ah, je vous ai dit non. Si vous avez pensé.
À une goutte de lait.
Hein?
Les apôtres, on boit le petit lait.
Le petit lait.
Dans l'évangile.